Je viens d'avoir la nouvelle officiellement. Je fais la parole à l'équipe, puis je fais maintenant partie officiellement des Packers de Green Bay.
Alors, c'est Marc Decoy, demi-défensif des Carabins de l'Université de Montréal. Pour la première fois, un joueur des Carabins est repêché dans la NFL, pas par n'importe quelle équipe, Ray, les Packers.
Oui.
Les Packers. L'équipe à mon frère.
Ouais,
pas la Packers, mienne, par exemple.
Une des équipes les plus célèbres, évidemment. Puis c'est tout un exploit pour un joueur québécois de signer une entente avec une équipe comme ça. Mais je veux rappeler quand même, avec un peu de prudence, qu'on est au mois d'avril, puis la saison n'est pas commencée, puis c'est tellement compétitif.
Pas grave.
Alors, mais c'est toute une journée pour lui, pour sa famille, puis une récompense de plusieurs années de travail.
Regarde, on ne sait pas sur quel pied danser, Ray, dans tous les autres sports. Alors que Marc Decoy s'en fasse pas, on n'est pas sûr de rien. Notamment, et ça vient me chercher, peut-être pas pour nos auditeurs, est-ce qu'il va y avoir une saison de football universitaire américain?
Oui, bien, la situation aux États-Unis...
Le NCAA.
Oui, c'est compliqué, Paul, parce que cette semaine, les présidents des universités, donc là, on parle vraiment du côté académique, les grands responsables de ces institutions-là, ont déclaré, là, de façon uniforme, que s'il n'y avait pas de cours en classe sur le campus, il n'y allait pas avoir de programme sportif à l'automne.
Ce qui est logique.
Ce qui est logique, bien entendu. D'un autre côté, alors faut comprendre qu'il y a un enjeu important parce que le football, c'est un des gros sports aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'autres athlètes, étudiants athlètes et sports, disciplines pratiquées sur les campus universitaires. Il y en a jusqu'à 30 dans une année complète, dépendant de la taille des universités.
Ben regarde, le basketball, on a éliminé le fameux March Madness.
Oui.
Et tu nous as rappelé combien ça veut dire de millions de dollars dont les universités vont être privées en Absolument. Droit de télévision.
Absolument. Puis ça, c'est un peu ce qui fait toujours réfléchir les gens, Paul. C'est l'enjeu financier. Les universités de la NCAA comptent beaucoup sur cet argent-là.
Combien Donc, tu penses que Notre-Dame, à South Bend, Indiana, reçoit de NBC pour ses matchs du samedi après-midi?
Ben moi, je te dirais que c'est à peu près par année autour de 50 millions de dollars.
Imagine.
Ouais, ça, c'est juste pour les matchs de football. Tu sais, les grandes universités, Paul, que ce soit Alabama, LSU, Clemson, les grandes, là, celles qui ont eu beaucoup de succès depuis quelques années, ont des budgets de football, budgets de revenus football, qui dépassent les 100-150 millions de dollars.
C'est incroyable.
C'est aussi gros que les grandes équipes professionnelles. Okay. Alors, c'est pour ça qu'il y a un enjeu important. Mais une chose qui est claire, Paul, c'est que on veut que la vie revienne à la normale sur les campus. Donc, c'est logique, comme tu l'as dit, mais peut-être qu'on devrait songer aussi à utiliser les programmes sportifs comme étant un peu l'étape progressive pour mener à des cours complets sur le campus.
Mais
autrement dit, utiliser les athlètes en football ou en basketball.
Mais non seulement tu as raison, Ray, mais les autres sports, que ce soit la Formule 1, que ce soit le tennis, le golf, pourraient servir de test vers un retour à la normalité. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Absolument d'accord avec toi, parce que non seulement on a des jeunes athlètes en bonne santé, on a une infrastructure, on a beaucoup de gens impliqués à coordonner la logistique, donc c'est peut-être une façon, Paul, de progresser vers un retour à la normale ou à quelque chose de semblant de normal. Alors, c'est comme ça qu'il faudrait peut-être le considérer. Puis sur les campus universitaires, si tu rentres 500 ou 1000 étudiants-athlètes au départ, au lieu de rentrer 60 000 étudiants, bien, peut-être que tu as une façon justement de progresser dans les efforts de distanciation puis de protection des individus.
Oui. Alors, est-ce que tu veux faire le tour d'horizon et nous dire où est-ce qu'on en est dans les différentes ligues? Je sais qu'en Europe, là, on est sur le bord de la réouverture. En Allemagne, notamment.
Ce que je te dirais, Paul, sur les grandes nouvelles, c'est la NBA puis la Major League Baseball. Alors, la NBA a déclaré hier, Adam Silver, que les centres d'entraînement des équipes vont ouvrir le 1er mai. Ça, c'est dans une semaine, Paul.
Oui.
Alors, évidemment, Adam Silver, il est très prudent. Il a quand même dit que ça va dépendre des endroits et des approbations obtenues localement avant. Donc, c'est pas lui qui s'en va contre la vague de prudence, et au contraire, il s'en va en disant « Je pense que certaines villes sont plus disposées que d'autres pour les centres d'entraînement. » On ne parle pas du public ou rien de ça. On parle des gymnases où les joueurs peuvent aller en privé s'entraîner. Alors, c'est quand même des foules très contrôlées. On parle de 15-20 athlètes, tu sais, qui iraient à différents moments, là, mais graduellement, ça permettrait aux athlètes de se remettre en forme côté basketball de l'NBA. Ça, c'est un premier geste qui est positif.
Ouais.
Côté baseball, le baseball majeur a annoncé hier aussi que 3 États sont considérés pour un modèle semblable à celui du hockey. Le Texas, la Floride et l'Arizona.
Oh, l'Arizona, le gouverneur voudrait avoir tous les matchs de baseball dans son
Alors
état.
Là, on pense peut-être pas à un modèle, peut-être, d'avoir une dizaine d'équipes du baseball majeur dans chacun de ces 3 États-là et d'utiliser de nombreux stades de baseball professionnels mineurs, c'est-à-dire les minor league baseball, et aussi les stades professionnels existants, et jouer un calendrier dans 3 États seulement.
Le baseball, Ray, est un sport où il y a une seule exception en termes de distanciation, c'est l'arbitre derrière le receveur.
Exactement.
Non, mais les autres joueurs sur le terrain, les 8 autres joueurs sont tous distancés.
Oui, à part du gars qui s'en vient au premier but après un simple puis qui est en contact proche du joueur de premier but.
Exact. Donc, T'en as trois qui sont regroupés. T'as le frappeur, le receveur, et derrière le receveur, l'arbitre.
Et l'arbitre, Omar, en passant, Paul, il y a de la technologie qui existe justement dans le baseball
mineur. Ben voyons donc.
Avec une robotique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'arbitre aussi responsable des appels. Il pourrait se distancer un peu. Et de toute façon, il reçoit les appels via ordinateur et son téléphone à chacun des lancers prises par caméra au champ centre.
Mais là, évidemment, il faudrait que tu apportes quelques modifications dans l'enclos, dans l'abri des joueurs.
L'abri des joueurs, oui. Ouais. Il faudrait que les joueurs soient littéralement, Paul, dans les gradins. Il faudrait mettre les joueurs distancés dans les gradins.
Ça serait spécial. Oui.
Ça serait assez spécial, mais ça dépend jusqu'à quel point on est déterminé à reprendre l'activité.
En Corée du Sud, c'est un sport extrêmement populaire en Corée du Sud, la Ligue professionnelle a repris ses activités. Mais avec des faux spectateurs dans les tribunes. On met pas des mannequins, mais des cartons.
Des cartons, donner un peu une ambiance.
Mais on a recommencé, et je te parlais de la première division en Allemagne, ils ont recommencé à s'entraîner dans la Bundesliga.
Oui.
Alors, ça, je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir des matchs, par exemple.
Oui, puis ils retournent avec aussi des certains effets, mais les effets spéciaux de partisans dans les gradins puis de bruit de fond, là, ça existe déjà dans le sport, surtout au football. Lorsque les équipes s'en vont jouer dans des terrains un peu difficiles, là, sur des stades où c'est très bruyant, on fait jouer avec des gros haut-parleurs sur les lignes de côté le bruit de la foule pour déranger justement les entraînements des équipes, pour les conditionner, les préparer à ça. Alors, on pense un peu dans cette même veine-là pour ce qui est du football de la Bundesliga.
Ben oui. On n'a toujours pas de nouvelles du hockey. On en a parlé hier. Il y a différents scénarios et tout ça. Mais penses-tu que Gary Bettman ne doit pas être rendu à bout? La Ligue nationale, Ray, c'est des 4 circuits professionnels, c'est le circuit qui fait le moins d'argent.
Ben, c'est celle qui a le plus besoin des ventes.
Voilà, donc il y a plus besoin des ventes. C'est la Ligue nationale de hockey, dans le fond, qui est le plus pénalisé par l'absence de spectateurs.
Exactement. Jouer des matchs à huis clos pour le hockey, c'est limité, c'est les dégâts. Tu comprends-tu? Si tu jouais des matchs à huis clos pour une saison complète de la NFL, il n'y aurait aucune différence sur la rentabilité des équipes.
Ouais.
Bien sûr, ils aiment ça, vendre 60 000 billets par match, mais ce que je veux dire, c'est que les revenus télé-médias sont suffisants pour payer les plafonds salariales de tous les clubs et toutes les autres dépenses des équipes. C'est vraiment un profit pur et net lorsqu'on vend des billets au football, tandis qu'au hockey, ça représente 70 % des revenus essentiels d'une équipe pour survivre.
Donc, ça fait terriblement mal. Et imagine la Ligue canadienne de football, dont tu nous disais hier. Voilà une ligue qui n'est pas riche, peu s'en faut. Ben, en plus, tu as besoin des billets vendus pour pouvoir maintenir tes opérations.
Oui, parce que c'est essentiel, les générations de... Ce qu'on appelle ça, les revenus de match, Paul. Ce qu'on appelle game day revenue. Alors, ce qu'on vend en billets, puis ce qu'on vend en produits dérivés, puis en restauration, puis tout ce qu'on vend pour le parking, puis tout ça, c'est vraiment important pour la survie d'une équipe de la Ligue canadienne. Si tu joues des matchs à huis clos pour la Ligue canadienne de football, malheureusement, c'est insuffisant pour garder le flow, là, garder les équipes rentables pour plus qu'une période limitée. Ça va être très pénible de ce côté-là.
Mais
Paul, je te rappelle juste une chose là, que je voulais dire concernant une œuvre caritative pour le coronavirus, c'est le match de golf version 2 entre Tiger Woods et Phil Mickelson. Et cette fois-ci, cette année, au mois de mai prochain, là, ils vont jouer pour une œuvre de charité, c'est-à-dire tous les gens qui sont dans le grand besoin aux États-Unis vont pouvoir bénéficier des sommes d'argent récoltées. Et Tiger Woods va faire équipe avec Peyton Manning contre Phil Mickelson qui va faire équipe avec Tom Brady. Alors, on a des stars qui vont attirer les regards. On a des gens qui vont regarder ce match-là à la télé, que ce soit à la télé pay-per-view payante ou à la télé habituelle, traditionnelle. Il y a des gens qui vont être autour de ça. Il va y avoir des commanditaires. On peut jouer au golf dans un climat un peu de distanciation. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens autour si on veut téléviser l'événement. Et finalement, l'argent, toutes les sommes vont être recueillies et remises au corps.
Tu as mentionné Tom Brady. J'ai trouvé ça tellement drôle cette semaine. Le maire de Tampa a envoyé une lettre d'excuse à M. Brady et Gisèle, sa conjointe. Parce que tu sais que Brady s'est fait apostropher parce que...
Dans
un parc, il n'était pas en confinement. Évidemment, c'est sa nouvelle ville, là. Il va jouer pour les Buccaneers. Et le maire à genoux, tu comprends. Il ne veut pas se mettre son corps arrière à dos en partant.
Mais Paul, tu sais ce qu'a fait aussi Brady cette semaine, justement, dans sa nouvelle ville, c'est qu'il allait voir son nouveau coordonnateur offensif, Byron Leftwich, qui est un des entraîneurs des Buccaneers à l'attaque. Et Brady, dans sa méconnaissance des lieux géographiques là, autour de Tampa, il s'est dirigé vers l'adresse de son coach et est malheureusement entré dans la mauvaise maison. Alors, il a frappé à la porte, il est rentré, il est arrivé face à face avec un individu. Il dit « Hey, les documents sont-tu là pour moi? » Il ne savait pas c'était qui cet individu-là. L'autre voit arriver Tom Brady chez lui, par surprise. Il pensait que c'était peut-être son anniversaire puis un party surprise qui avait été organisé. Tout ça pour dire que Brady, jusqu'à maintenant, là, il fait des siennes. Il a réussi à attirer son célèbre coéquipier, Rob Gronkowski. Et les Buccaneers commencent à avoir l'air d'une équipe qui pourrait être aspirante si jamais la NFL reprend.
Ils n'ont pas une vilaine équipe. Mais une chose, cependant, moi, je ne suis pas un grand fan, tu le sais, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, de Tom Brady. Mais il a donné 750 000 repas. Ouais. À des gens qui étaient vraiment dans le besoin. On s'entend là-dessus. 750 000 repas et apparemment qu'il s'apprête à le refaire. Là.
Ouais. Donc, Paul, une chose qui est importante, c'est qu'au départ, là, il y a 4, 5, 6 semaines, on parlait des gestes de générosité, avec raison.
Ouais.
Puis là, on n'en a pas reparlé depuis longtemps.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que ça a diminué. Au contraire.
Non, il y en a qui le font.
De plus en plus d'athlètes et d'entraîneurs et de dirigeants sportifs donne généreusement. Il y en a trop là maintenant pour en parler, pour garder un line-up, si on veut, de ça. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que le côté sport redonne à la communauté dans le besoin.
Merci beaucoup, Ray. Bonne semaine.
Bon dimanche.
J'espère qu'on va avoir de gros développements à se jaser la semaine prochaine.
Oui, moi aussi.
Je commence à m'ennuyer, là.